L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Jumière, Les miroirs brisés. Mise en scène, production, Jean-Pierre Jumière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Alors, elle le retourne. Et là, elle voit son visage pâle, les yeux fixes. Il est mort. Elle voit qu'il a au cou un mince filet de sang, se relève effrayé, voit que sur sa table de nuit, le cadre où il y avait sa photo a disparu. Et le cadre est brisé. Vite. Elle quitte l'appartement et descend les escaliers en vitesse. Elle entend derrière elle,
Mademoiselle, que faisiez-vous chez Monsieur Thomas?
Elle continue à courir. Et elle continue à courir, sort de l'allée. Et de la cour. Une fois dans la rue, elle se remet à courir. Puis, épuisée, elle s'arrête sur les quais de Seine, s'assoit sur un banc. Elle essaye de remettre ses esprits en place. Frédéric. On lui a enfoncé un poinçon dans la nuque. Oui, on lui a enfoncé un poinçon dans la nuque. Et pourquoi? Est-ce à cause de moi? La photo a disparu. C'est à cause de moi? Pourquoi? Peut-être est-ce que Frédéric savait vraiment qui je suis? Mon Dieu, j'ai vu un cadavre. Pauvre Frédéric, il est peut-être mort à cause de moi. Mais pourquoi? Pourquoi? Si une personne l'a tué, c'est mon père. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas que je sache. Elle revoit Frédéric. Se met à pleurer et dire qu'hier il m'a embrassé. Il reste un moment sans réfléchir. Puis elle se demande comment a-t-on pu savoir que je le connaissais. A dû me suivre. Et qui? Mon père? Alors, si c'est mon père, c'est que c'est lui qui... Non, c'est impossible. Tu divagues, tu deviens folle. Frédéric est peut-être mort pour autre chose.
une autre raison que moi. Mais le cadre, la photo, ça n'a peut-être rien à voir avec mon crime. Mon père, si c'est à cause de moi qu'il est mort, bien, c'est la preuve que je ne le suis pas. Ce qu'on me dit, qu'on me cache des choses. Tout d'un coup, elle voit tout vaciller. Tout vaciller. Se sent très faible. Revoit Frédéric à terre, mort. Et comprend enfin ce que signifie. Ce que veut dire qu'il est mort. Et en plus, cette femme qu'il a vue, qui peut la reconnaître, elle va le dire à la police. Elle voit le cadavre. Le cadavre. Son corps bat très fort. Elle se revoit courir dans les rues. Elle ne se sent pas bien. Elle se lève. Marche. Ses jambes ne la tiennent pas. Elle a tout juste le temps d'entrer dans un café. S'assoit. Un serveur l'a vu entrer, voit qu'elle, se sent, qu'elle n'est pas bien. C'est un jeune homme de 20 ans, grand, mince, blond. Vous désirez, mademoiselle? Elle lui dit, tenez-moi un verre d'eau et un café. Je suis fatiguée. Voit qu'il n'est pas bien du tout, l'amène à une table et va chercher les boissons. Il lui donne la boisson. Ça lui fait du bien. Il y a dans ce petit café quelques joueurs de cartes, des vieux, qui jouent en sirotant leur marnia. Le serveur lui apporte son verre d'eau qu'elle boit. Puis elle demande, il est quelle heure ? 17h. Le serveur se retire et se demande, comment a-t-on pu savoir que je le connaissais? On a dû me suivre. Et qui? Mon père? Alors c'est mon père? C'est lui qui a... Oh non, c'est impossible! Tu divagues, tu deviens folle. Frédéric. Le serveur retourne à elle et lui demande, vous allez mieux? Elle lui dit, oui, merci. Il lui dit, c'est sans doute la chaleur. Oui, sans doute. Terminez votre café. Merci. Et il s'éloigne. Elle est tremblante. Le café bouillant lui fait du bien. Pauvre Frédéric. Et pourquoi l'a-t-on tué? C'est à cause d'elle, c'est qu'elle doit être très dangereuse. Après avoir bu son café, elle se lève pour sortir du café. Le serveur va à elle. Vous n'avez besoin de rien? Elle lui dit, non, merci. Et elle sort du café. Elle décide, c'est de marcher un peu. Elle ne peut pas rentrer comme ça. N'a pas hésitant, elle se met en marche. Tout d'un coup, une voiture s'est arrêtée près d'elle. La portière s'ouvre. Elle sursaute. C'est son père qui apparaît et lui dit honte. Elle s'engouffre dans la voiture et s'assoit près de son père. Le père dit au chauffeur, à la maison, s'il vous plaît, Armand. Le père dit à sa fille, qu'est-ce que tu faisais? Où allais-tu? Tu n'as pas l'air bien. Elle ne répond pas, il lui dit, tu n'aurais pas dû sortir. Il fallait se rester allongé. Ça fait longtemps que tu marches. Elle fait oui de la tête, il lui dit, tu as eu la chance que je passais par là. J'ai été voir un client. Je t'ai vu. Tu avais l'air perdu. Tu savais où tu étais? Elle ne répond pas. Il lui demande. Le docteur Morel t'a vu hier au soir. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Elle lui dit, rien. Je vais très bien. Ne le dirai pas. Elle lui dit,
ce n'est pas ça.
C'est quoi?
Il est mort.
Qui?
Frédéric.
Qui est ce garçon?
Le garçon que j'ai connu et il est mort.
Ça arrive.
Elle lui dit, oui, on l'a tué chez lui. À cause de moi, à cause de moi.
Il ouvre ses épaules et lui dit, tu dis vague. Mets des idées dans la tête. Te raconte des histoires.
Elle lui dit, mais il est mort.
Tu as dû rêver.
J'ai bien vu, il est mort.
Qui est ce garçon?
Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Tu vois que tu délires. Tu sais plus ce que tu dis. Tu devrais aller en Bretagne chez ta tante. Ça te changera les idées.
Tellement, quelle idée ? Celle qu'on me met dans la tête ?
L'homme a pleuré.
Il est mort. Il est mort. Il est mort.
La voiture s'est arrêtée devant le portail.
Le chauffeur sort de voiture pour ouvrir le portail.
Une fois qu'ils sont dans la maison, le père demande de l'aide à la gouvernante pour coucher Florence et appeler le médecin. Florence se laisse faire. Le médecin arrive, lui fait une piqûre pour la calmer et s'endort, sommeil noir. Les jours plus tôt, les nuits passent. Florence se repose et ne peut penser. Elle dort, on la réveille pour la nourrir et lui donner ses médicaments. Le silence, toujours le silence. Elle n'a plus de cauchemar. Puis, après, peut-être de nombreux jours, elle ne sait pas. Elle se sent si fatiguée. Reste éveillée un peu plus chaque jour et mange mieux. Elle reconnaît où elle est et les gens qui l'entourent. On lui parle peu, elle n'a pas envie de parler. Un après-midi, on l'amène dans le parc. On la fait asseoir sur une chaise longue. Elle a la tête vide. On voit tout tourner. Son père vient s'asseoir près d'elle. Il lui demande si elle va mieux et ne repent pas. Les jours passent. Le médecin vient souvent la voir, essaye de la faire rire. Et un après-midi, elle se sent mieux.
Dans le parc, son père est assis près d'elle. Il demande « Tu vas mieux ?» Elle lui répond « Que m'est-il arrivé ?»«
Tu as été très malade. Maintenant, ça va mieux, mon chéri. »
« Qu'est-ce que j'ai eu ?»
« Une grande fatigue. » « Mais nous étions là pour te soigner, ma chérie. »
Elle lui sourit et lui dit « Vous avez été très bon. Merci, père. »
Il lui dit « C'est tout à fait normal, ma chérie. Je suis très heureux que tu sois guérie. »
Elle lui dit « Moi aussi. Mais je me sens encore faible. »
Ça s'arrangera, tu verras. Bientôt, tu pourras sortir et même aller dans des soirées. Avec ton papa.
Elle demande, des soirées?
Oui. Voir du monde, c'est bon.
Elle regarde les feuilles d'automne. C'est déjà l'automne?
Oui, tu es resté malade. Ma chérie, pendant un bon moment.
Et elle s'endort, épuisée. Elle va de mieux en mieux. Semble avoir oublié ses angoisses, ses questions. Demain, elle pressait son père et se dit qu'il a bien du courage de s'occuper d'elle, elle qui est toujours malade. Se sent mieux, mais lâche, très lâche. De réfléchir, la fatigue beaucoup. Alors, elle veut se laisser aller, guidée par ceux qui l'entourent.
Bien sûr, elle se souvient de Frédéric et se sent toujours, malgré elle, coupable de sa mort. Mais elle ne veut pas approfondir cette énigme parce qu'elle sent que ça va la rendre malade.
Et puis, c'est si bon de se laisser guider par les autres.
Le bon docteur Morel vient la voir tous les matins et lui fait même de temps en temps de petits cadeaux. Gâteries, jeux rigolos, magazines Peuple, un petit bouquet discret. Ça la détend et la fait rire. Elle s'imagine ce brave homme un peu gauche à cause de sa grosseur lui faire une cour discrète. Il lui arrive même d'en rire avec son père. Lorsque son père est près d'elle, lorsqu'il vient la voir, le père dit au médecin pour rire
« Mon cher docteur, vous venez tous les jours faire la cour à ma fille. Je vais être obligé, c'est de vous surveiller. »
Le bon docteur devient tout rouge, se détend, se met sur une jambe et dit
oh, « oh, votre fille est si charmante, mais je ne jamerai jamais lui faire la cour. Je la respecte trop. Oui, je la respecte trop. »
Le matin, Florence prend son petit déjeuner dans sa chambre, dans son lit, et son père vient le prendre auprès d'elle avant d'aller à son travail. Elle finit par le trouver touchant, émouvant, et se dire qu'il a beaucoup de courage et de gentillesse de s'occuper d'une fille comme elle qui ne lui crée que des ennuis.
Un matin, en prenant leur petit déjeuner, elle lui dit
« Je suis pas une bonne fille. Je ne vous ai apporté que des ennuis. Votre vie n'a pas été drôle. Vous avez été toujours obligé
de vous occuper de moi depuis ce sale accident. » Il lui dit, « Mais que dis-tu là? Cela ne m'embête pas de m'occuper de toi, bien au contraire. »
« Oui, mais tu n'as pas eu une vie très heureuse. Maman est morte très jeune et maintenant c'est moi. »
« Eh oui, c'est la destinée. Mais tu sais, dans toutes les familles, il y a toujours quelque chose. Tout le monde porte sa croix. Ce qui me chagrine, ce n'est pas les soucis, tu sais, mais les peines que j'ai, peines surtout à cause de ceux qui souffrent. »
Elle lui demande, « Maman a été longtemps malade ?»«
Non, le cancer a été très rapide. » Ce qui m'a aidé à supporter mes peines. Et puis je n'étais pas seul. Je t'avais, ma chérie. »
Elle se pince son cou. « Papa, papa. »
Elle a de plus en plus d'affection pour son père. Elle se dit que si elle se sent mal, c'est lorsqu'elle se pose trop de questions, mais que cela vient d'elle, rien d'autre. Et puis, elle n'a pas à se plaindre, elle veut entourer de gens qui l'aiment, dans un décor délicieux, et à tout ce qu'elle demande. À côté de beaucoup de gens, elle est une privilégiée. Elle se dit aussi que si elle se pose tant de questions, c'est parce qu'elle n'a pas beaucoup de soucis. Oui, elle a très peu de soucis. Malgré cela, malgré ce qu'elle pense, qu'elle soit heureuse et entourée de douceur, elle fait toujours la nuit des cauchemars terribles, des cauchemars qui la réveillent en sueur. Et elle pense toujours de temps en temps à Frédéric. Elle sent aussi que si elle n'était pas si lasse, elle aimerait, c'est partir. Oui, partir, partir, droit devant elle. Mais non, elle ne le peut pas, parce que ça ferait de la peine à son père. Les jours passent, mange de plus en plus, marche dans le parc, va de mieux en mieux. Elle commence à s'ennuyer d'être toujours enfermée. Le beau docteur, un matin, après l'avoir ausculté, dit au père,
« Votre fille va tout à fait bien. Maintenant, il va falloir se la distraire un peu. La sortir. Qu'elle voie du monde. Surtout, qu'elle voie du monde et qu'elle aille en ville. Il faut qu'elle se réhabitue à la foule. Bien entendu, elle pourrait sortir en voiture. Elle est restée trop longtemps confinée ici. »
Elle sortira l'après-midi. Tu veux bien, Florence?
Oui, père. Je veux bien.
Et l'après-midi, accompagnée de la gouvernante, elle sort bien habillée, tailleur rouge, parce que c'est l'automne. Elle est heureuse de quitter la propriété. Avenue Floch, cela peut aller parce que l'avenue est calme. Mais lorsqu'elle approche des grands boulevards, le bruit, les voitures, la foule, elle a perdu l'habitude. Alors la gouvernante décide d'aller au jardin des Tuileries, c'est moins bruyant. Là, elles vont jusqu'au Louvre. Traversent le Louvre et vont jusqu'à l'avenue de l'Opéra qui se trouve de l'autre côté du Louvre. Et sur le chemin du retour, elles vont prendre un café dans une brasserie. Un jour, son père l'a fait venir chez les couturiers pour qu'elle puisse changer sa garde-robe. Elle y va accompagnée de sa gouvernante. Cela l'ennuie de choisir des robes, tailleurs, manteaux, chaussures, etc. Son père veut même qu'elle ait des robes de soirée. Elle lui demande:
mais pourquoi, père? Nous ne recevons personne.
J'ai décidé, c'est que tu sortes peu. Tu es largement en âge de voir du monde.
Elle lui dit: tu sais que j'aime pas les gens. Et que je les aime d'une façon simple. Et que je déteste toutes ces choses.
Il lui dit: tu es la fille de ton père. Tu dois être, tu te dois, c'est de t'habituer à recevoir et à être reçu à ces choses. J'ai un rang à tenir, tu comprends. Et je n'ai que toi. Si ma femme était là, tu dois la remplacer pour ça. Il faut, tu dois le faire pour moi.
Bien, père, je le ferai.
Puis, tu verras, c'était pas si ennuyeux que ça. Et si un jour, tu veux te marier, il faudra bien passer par là pour rencontrer un jeune homme bien.
Pour ça, j'ai bien le temps.
L'on croit qu'on a toujours le temps, mais le temps passe vite. Et puis, tu sais, je ne serai pas toujours là.
Et lui dit: vous êtes encore bien jeune, j'ai le temps, père.
Mais je peux, il faut penser dès maintenant à l'avenir.
Elle lui demande: en parlant d'avenir et mes études.
Tu en as assez appris comme ça. Maintenant, il te faut apprendre à tenir une maison.
Mais je ne veux pas être une femme d'intérieur.
Que veux-tu faire?
Décoratrice.
Mais une décoratrice est une femme d'intérieur qui s'occupe de l'intérieur des autres. Toi, tu feras la même chose, mais pour toi.
Elle est déçue qui voyait les choses comme ça, lui dit « Mais ça...
J'aimerais bien avoir un métier et être plus indépendante. »
« Ne fais pas de soucis pour ton indépendance, ma chérie. Tu as bien suffisamment pour dépendre de personne. »
Et il l'embrasse sur la joue.
Les jours passent et continuent comme ça.
Ils sortent pour les couturiers, promenade. Florence commence à s'ennuyer. Les boucons manquent dans sa chambre ou dans le parc. Des livres bien faits, comme ceux d'Éric Jourdan. C'est pas un romancier pour femmes, mais elle aime sa force, la force de ses romans. Des livres de Michel Schutter.
Un soir, son père lui demande.
Il faut te préparer, nous sommes invités à une soirée chez un de mes amis.
Je suis pas obligé d'y aller.
Pour me faire plaisir et me rendre service. Tu veux bien aller avec moi, ma chérie? Tu verras, tous les hommes viennent accompagner. Allons, fais plaisir à ton papa. Et puis, ce n'est qu'une soirée.
Bien, c'est chez qui?
Un gros industriel, Monsieur Viguez, un charmant. Monsieur, il fabrique des choses pour l'aéronautique, des appareils de mesure de très haute précision.
Elle lui demande, et on est à faire avec lui?
Un peu, oui. Mais il a beaucoup de relations dans le gouvernement et les banques. Et puis, je l'aime bien. Il est très simple. La soirée va se passer du côté de Versailles, dans une propriété. Tu verras, ce sera agréable. Tu verras, ce sera très bien.
Cela ne l'enchante pas du tout d'y aller. Mais elle veut faire plaisir à son père, qui est si bon pour elle. Le jour de la soirée arrive. Elle se dit,
déjà,
il faut se préparer. On passe la journée à se préparer. Choisir, parmi toutes ses robes, celle qui ira le mieux. Sans compter les chaussures, accessoires, etc. Bien entendu, comment se coiffer. Elle décide, c'est d'y aller le plus simple possible. L'élégance se trouve dans la simplicité. Et puis, elle est jeune, elle n'a pas besoin d'artifice. Lorsqu'elle va rejoindre son père dans le hall d'entrée, pour partir, elle porte une robe toute simple, longue et blanche, les cheveux tombants, un petit collier discret en or, une petite montre de chez Cartier minuscule. Petite pochette blanche dans le même tissu que la robe. Arrivée vers son père qui était ébloui, il lui dit « Tu es délicieuse, beaucoup de goût.
Merci père,
Comment te sens-tu?
Très bien. Je te fais guérir.
En réalité, elle se sent toujours un peu vaseuse, mais elle ne veut pas l'ennuyer.
Non,
elle ne veut pas l'ennuyer.
Le chauffeur leur ouvre la portière de la Rolls et rentre dans la voiture. Et il la met en route.
Il est 21h. Son père lui dit,
c'est ta première soirée, ta première vraie soirée.
Elle lui dit, ça ne m'enchante pas.
Tu vas rencontrer des jeunes gens charmants.
Monsieur Vidiès?
Pourquoi pas? Il est très gentil et sérieux.
Sûrement trop vieux pour moi.
Pas si vieux que ça.
Ils sont dans les rues de Paris, tout illuminé, son père lui dit.
Si tu me permets, j'aimerais s'ouvrir la vitre pour sentir l'odeur de la ville.
Bien sûr, fais-le.
Le père ouvre la vitre et l'on entend le bruit de la ville.
Son père lui dit, j'adore cette ville, c'est notre ville. Je suis très heureux que les Jeux Olympiques. Passe par ici. Ils auraient dû figurer toute la ville avec ces nouveaux quartiers. Ils auraient été obligés de faire. Et puis ça aurait coûté très cher. Le pays qui organise les jeux font toujours cela avec du difficile. Il faut des années pour s'en remettre.
Le président de la République qui ont demandé que Paris ne soit pas choisi. Il l'a fait en cachette. Et nous avons eu raison. Le peuple est naïf, il ne comprend rien. Il n'a pas de goût.
Et sourit. Vous avez eu raison, père. Et monsieur Vidiès faisait partie de ceux qui ont fait en sorte à ce que Paris ne soit pas choisi.
Oui.
Héry.
Tu t'intéresses déjà à lui.
Elle lui dit, non, c'est juste par curiosité. Et il rit tous les deux.
Ils sont arrivés sur les lieux de la soirée. Elle se passe dans une grande propriété dans les environs de Versailles, au fond d'un parc. La maison, une vieille maison, grande, de 3 étages,
de style Napoléon III, terrasse sur le devant. Le parc a des arbres centenaires très touffus. Lorsqu'ils arrivent, on entend le bruit de la soirée. Le portail de la propriété est ouvert, mais des gardes armés, habillés en costume noir, gardent l'entrée et demandent les cartons d'invitation. Il y a devant de la propriété un parking aménagé. Une fois sortis de voiture, le père et la fille se dirigent vers la maison. Florence lui dit « Il y a déjà beaucoup de monde ?»«
Oui. »
Elle lui dit « Ça nous permettra de dire bonsoir et de nous en aller comme ça sans que personne ne s'en rende compte. » Il lui dit
« Ce n'est pas très chic, viens. »
Dans le parc, il y a des gens en tenue de soirée. On les regarde passer. Certains se disent « Quel est ce vieux avec cette fille ? C'est sa maîtresse ?» Au fur et à mesure qu'ils approchent de la maison, ils entendent de plus en plus le bruit de la soirée. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les miroirs brisés. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.